Le débat du jour. Loïc Bussière.
Il date du siècle dernier. Certains voudraient justement bien le voir conjugué au passé. Le franc CFA, créé par la France de l'après-guerre, est toujours d'actualité dans 14 pays d'Afrique subsaharienne. Mais il est de plus en plus contesté par ceux en Afrique et au-delà qui le voient comme un boulet bien plus que comme un atout. Mécanisme désuet, survivance coloniale ou encore obstacle au développement des pays qui l'utilisent. Les charges contre la monnaie commune ne manquent pas. Faut-il en finir avec le franc CFA ou ouvrir un nouveau chapitre monétaire en Afrique? C'est le débat de ce soir. Avec nous pour en parler, deux invités dans ce studio, Serge Mikhaïlov, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, ancien directeur, corrigez-moi si je me trompe, à la Banque mondiale. Face à vous, Étienne Giros, vous êtes président délégué du CIAN, Conseil français des investisseurs en Afrique, qui regroupe l'essentiel des entreprises françaises investies en Afrique. Vous êtes également l'auteur d'Africanistan, édité par Fayard. Hop, et voilà, je passe la balle à votre collègue, Serge Mikhaïlov, pour entrer plein pied, en tout cas, dans le débat. Je vous propose d'écouter les propos d'Idriss Déby sur cette question dont on parle, question délicate du français. CFA. Et c'était il y a à peine un an lors d'une conférence de presse du président tchadien.
Vous avez aujourd'hui le franc CFA qui est garanti par le trésor français. Mais cette monnaie-là, elle est africaine. C'est notre monnaie à nous. Il y a des clauses qui sont dépassées. Et ces clauses-là, il faudra revoir dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt aussi de la France. Ces clauses tuent l'économie de l'Afrique.
Voilà, le président tchadien au micro RFI de Majias Ranako. C'était au mois d'août de l'année dernière, en marge du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Les mots que l'on vient d'entendre sont forts. Idriss Déby parle d'un franc CFA aux clauses dépassées, des clauses qui tuent l'économie de l'Afrique. Est-ce que, vu de 2016, le franc CFA est toujours un atout pour les pays d'Afrique subsaharienne, Serge Mikhaïlov?
Alors, vous savez, ces questions monétaires sont toujours un peu compliquées. Et donc il faut les mettre sur une balance et regarder un petit peu les avantages et les inconvénients. Parce que d'abord, c'est une monnaie qui concerne quand même plus de 100 millions de personnes, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et à toute vitesse. Par contre, dans les critiques du président Déby, il y a des éléments qui sont justes. Il y a des inconvénients qui sont aujourd'hui bien clairs. Maintenant, par quoi le remplacer et comment le remplacer, c'est pas si simple. On peut faire un petit bilan des avantages et des inconvénients, si vous voulez. C'est assez simple. L'avantage, c'est la convertibilité, c'est-à-dire qu'avec du franc CFA, on peut acheter du dollar, on peut acheter toutes les monnaies qu'on veut. C'est quand même assez facile. Ça facilite les échanges régionaux entre les différents pays et puis avec la France. Ça permet d'avoir une inflation tout à fait maîtrisée dans ces pays. Et puis, ça assure une gestion de la politique monétaire sérieuse. C'est des gens qui sont corrects. Bon. Et puis, quand on met ça en balance avec les inconvénients et puis les critiques, alors les critiques, est-ce que c'est une survivance d'un système impérialiste dont il faut se débarrasser? Bon, faut savoir que les échanges de la France avec la zone franc, c'est 4% des échanges de la France. Donc c'est quand même pas la mer à boire. Bon. Maintenant, si vous voulez, l'inconvénient principal, c'est que les pays qui font partie de cette zone ne peuvent pas utiliser le taux de change comme élément de politique économique. Mais ça, c'est comme la France dans l'euro aujourd'hui. On ne peut plus s'amuser à dévaluer pour compenser des erreurs ou des errances antérieures. Ensuite, il y a le même problème que dans la zone euro, c'est-à-dire que la politique monétaire ne tient pas compte de la variabilité, très grande variabilité des situations des différents pays. On voit bien qu'avoir la même politique monétaire dans la zone euro pour le Portugal, la Grèce, la France et l'Allemagne, ça pose des problèmes. Ben, c'est la même chose entre le Tchad, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et sans parler du Gabon. Donc, il y a des obstacles qui sont pesants. Et puis, alors, il y a une grosse critique qui revient très régulièrement, c'est le problème du caractère fixe de la parité avec un réajustement qui arrive tous les 40 ans ou tous les 50 ans, d'une brutalité inouïe. Et ça, effectivement, c'est un problème extrêmement sérieux. Alors, le président Déby disait pas qu'il fallait l'acheter, mais il disait qu'il fallait sans doute l'adapter. Et je crois que les dirigeants africains ont tous les éléments en main pour procéder à ces adaptations.
Étienne Giros, je me tourne vers vous. Justement, ces propos que l'on vient d'entendre de la part du président tchadien, ils sont à la fois justes, mais trop simples pour une situation que vient de décrire justement Serge Mikhaïlov.
Il y a deux manières d'aborder le problème du CFA. Une manière politique, une vision politique et une vision économique. Et je dois vous dire qu'à mes yeux, les adversaires du franc CFA ou ceux qui le critiquent ont plutôt une vision politique. Je ne critique pas moi-même cette vision, je dis simplement qu'elle est de nature politique, qui repose principalement sur l'argument suivant: la souveraineté d'un pays, pour avoir une souveraineté, un pays doit avoir la maîtrise de sa monnaie. Et aujourd'hui, avec le franc CFA, les pays africains n'ont pas la maîtrise de leur monnaie, il faut bien le reconnaître, puisque le CFA est raccroché à l'euro. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, notamment dévaluer s'ils le veulent ou changer la parité. Et donc, les adversaires politiques expriment cela comme une baisse de la souveraineté de ces pays. D'où un élément d'insatisfaction. Et le deuxième, mais ça c'est vraiment très très politique aussi, c'est que ce serait un outil de domination de la France sur ses anciennes colonies. Bon, ça je crois franchement que cette critique-là, elle résiste pas beaucoup à l'examen de près des choses. Et puis alors après, il y a la vision économique des choses. Comme l'a dit Serge, à quoi sert le franc CFA? Je vais pas répéter tout ce qu'il a dit, j'ajoute simplement qu'on peut aussi présenter les choses d'une manière un tout petit peu différente. Le franc CFA, tel qu'il est aujourd'hui, il facilite et il aide la consommation intérieure des Africains, puisque les importations ne sont pas trop chères. Si on dévaluait, les importations seraient beaucoup plus chères et ça pèserait sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il empêche une industrie de transformation et les exportations africaines de se développer, puisqu'il est rattaché à une monnaie forte. Et donc, il me semble que le sujet, c'est pas tellement est-ce qu'il faut qu'il y ait un franc CFA ou pas, c'est quelle est la parité du franc CFA. C'est ça le sujet.
Et là, on en revient à la fameuse question de la dévaluation du franc CFA, dévaluation qui n'est pas possible en l'état.
Si, elle est possible. Ça a bien eu lieu en 1994. Alors, d'abord, sur la dévaluation et sur le fait que le franc CFA est élevé puisqu'il est accroché à l'euro. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que l'euro depuis 1995, depuis la moitié de 1994, depuis deux ans, comme chacun le sait, a baissé. Il a baissé de 22%. Donc par rapport au dollar, qui est l'autre monnaie mondiale. Donc le franc CFA a été de facto dévalué de 22%. Alors, je pense qu'on n'y pense pas assez parce que ça se passe au fur et à mesure, tous les jours, et ça n'a pas été une décision d'un seul coup des chefs d'État africains.
Alors justement, sur ces critiques politiques, vous le dites que vous évoquiez, sur ce franc CFA trop fort, je vous propose d'écouter les propos d'un des détracteurs de cette monnaie unique, de cette monnaie commune, Kako Nubukpo, qui parle, lui, de servitude volontaire. Vous le connaissez, hein, Kako Nubukpo, c'est un ancien ministre togolais. Il était l'invité d'Echo, d'ici Echo d'ailleurs, sur l'antenne d'RFI. Je vous propose d'écouter.
Vous avez l'impression d'être riche lorsque vous avez une monnaie forte. Donc, plutôt que de produire vous-même ce dont vous avez besoin, vous êtes tenté d'importer ce que les autres produisent. Et lorsque vos producteurs de coton veulent exporter leur coton, ben, comme la monnaie internationale, c'est le dollar, et qu'elle est faible par rapport à l'euro, vous avez des coûts de production en euro CFA, mais vous vendez en dollars. Ce qui fait que vous n'arrivez jamais à dépasser la zone de coût fixe. Donc vous ne pouvez pas être compétitif.
Voilà, la démonstration par l'exemple, en tout cas l'explication de la part de cet ancien ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, qui est également auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». À qui profite le franc CFA? On voit tout de suite de quel côté il se place. Est-ce que, justement, quand on écoute ce que dit Kako Nubukpo, on peut comprendre la situation, justement?
Ah oui, non, c'est tout à fait juste, à savoir que ça facilite, comme le disait Étienne tout à l'heure, ça facilite les importations, ça gêne la production, à la fois sur le plan industriel et aussi sur le plan agricole. Donc sur ce plan-là, si vous voulez, c'est une monnaie forte qui favorise les classes aisées au détriment de tous ceux qui cherchent des emplois. Donc c'est une monnaie qui gêne l'emploi, et ce qui est un gros problème au niveau africain. Et à la fois relancer l'agriculture, comme c'est indispensable dans beaucoup de pays qui n'ont guère que cette solution-là pour gagner leur vie, et je dirais insérer ces pays africains dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur de la mondialisation industrielle, c'est-à-dire dans des systèmes qui sont articulés avec l'Europe, les États-Unis, la Chine, etc., dans lesquels ils jouent des rôles de sous-traitance, eh bien, c'est extrêmement difficile avec une monnaie forte. Donc ça condamne en fait les pays de la zone franc à leur spécialisation primaire qu'ils ont actuellement et qui est quand même un gros handicap. Donc l'argument de Kakoumbuku est tout à fait juste.
Étienne Giraud, dire que le franc CFA c'est pratique pour acheter du champagne mais moins pour vendre du coton, c'est une grossière caricature ?
Oui, je crois quand même que c'est une caricature, bien que ce qu'a dit le ministre Kako est tout à fait juste, je rejoins Serge là-dessus. Mais je voudrais mettre en avant aussi quand même deux autres avantages du franc CFA qui sont peut-être un petit peu moins ressentis par les populations, mais qui sont très importantes pour le développement de l'Afrique. Le premier, c'est que le franc CFA, il est convertible à tout moment. Et deuxièmement, il a une parité fixe. Or, pour les importateurs, pour les exportateurs et surtout pour les industriels qui veulent s'installer en Afrique et investir, c'est extraordinairement important d'avoir ce facteur de stabilité. Quand vous êtes investisseur et que vous choisissez d'investir, de construire une usine de transformation ou autre, ou de commercialisation dans un pays d'Afrique, vous regardez quand même cette question de la monnaie. Et si vous vous dites que vous n'avez pas de risque de change, c'est-à-dire que quand vous investissez 100 euros, dans un an, ça vaudra toujours 100 euros, alors que dans un autre pays, s'il y a une dévaluation de 50%, ça peut valoir plus que 50, vous allez choisir le pays qui est stable. Donc ça, c'est indéniablement, là, puisque je représente les entreprises françaises, je peux vous dire que c'est un facteur de sécurisation et d'attractivité pour les investisseurs. Autre et dernière très brève remarque, Serge a posé une question très juste, mais par quoi le remplacer ? Je remarque simplement que d'autres pays d'Afrique, et beaucoup d'autres pays d'Afrique, ont leur propre monnaie, et qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ces monnaies font le yo-yo, et par exemple, quand il y a la baisse des prix du pétrole, ils ont moins de ressources en devises.
On peut citer l'exemple du Nigeria récemment.
Ou l'Angola, où il n'y a plus de devises. Ça, ceci ne se passe pas. Par exemple, le Gabon a d'autres problèmes. En tout cas, il n'a pas un problème de devises, puisqu'il est raccroché au franc CFA, bien que le prix du pétrole baisse. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand ces pays utilisent des monnaies locales propres, qui ne sont pas très solides, on assiste à une dollarisation de l'économie. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu dans ma vie, tout le monde, et vos auditeurs l'ont sûrement vécu aussi, des pays entiers où en réalité, tout se passe en dollars. Alors, sur le plan de l'indépendance, on brandit le drapeau, oui, j'ai ma monnaie, mais les vraies transactions quotidiennes pour les affaires se passent en dollars ou en euros, mais en tout cas pas dans la monnaie locale. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer et avoir trop d'espoir.
Serge Mikhaïlov, le franc CFA, quand on entend ce que vient d'expliquer Étienne Giraud, on peut se dire que c'est un moindre mal ?
Ben disons que quand on met sur une balance avantages-inconvénients, sur le court terme, on se dit que bon, c'est plus simple de continuer comme d'habitude. Ceci dit, il y a quand même un domaine dans lequel je pense qu'il faut bouger, et il faudrait bouger quand même assez rapidement, au moins au niveau des mécanismes et des principes, c'est le problème de la fixation de la parité. Parce qu'actuellement, la parité par rapport au dollar, elle est décidée finalement à Francfort, elle est décidée à New York, etc. Et ça, pour les pays africains, c'est quand même quelque chose d'extrêmement embarrassant. Et il n'est pas normal non plus que cette parité soit fixée uniquement par rapport à l'euro. Donc on pourrait très bien imaginer un système avec un panier de monnaie dans lequel on trouve du dollar, on trouve de la livre, on trouve du renminbi chinois qui me paraît également tout à fait important compte tenu de l'ampleur des échanges avec la Chine. Et donc on pourrait, il faut surtout éviter de se retrouver dans la même situation qu'en 93-94 où on avait laissé filer la compétitivité de toute cette zone-là et puis d'un seul coup il a fallu dévaluer avec une brutalité inouïe de 50%.
À l'époque justement vous travailliez à la Banque mondiale.
À l'époque je faisais partie de la petite équipe qui a préparé et géré cette opération-là, qui était affreusement compliquée. Donc il vaudrait beaucoup mieux avoir un système flexible, ce qui ne veut pas dire un système à yo-yo. Hein. Je veux dire, c'est là que si on laisse créer 14 monnaies différentes, vous risquez d'avoir au moins une douzaine qui font le yo-yo. Par contre, si l'on imaginait un ou deux francs CFA, je pense à deux francs CFA parce que les intérêts de la zone Afrique centrale ne sont pas les mêmes que les intérêts de la zone d'Afrique de l'Ouest. Donc on pourrait imaginer une évolution avec une séparation entre les deux zones monétaires encore plus fortes qu'actuellement, des parités différentes. différentes, et puis un mécanisme d'ajustement progressif des parités en fonction de la conjoncture et de certains phénomènes. Je voudrais quand même souligner un point, si vous voulez. Jouer sur la parité de la monnaie, c'est, je dirais, le premier instrument quand vous êtes soumis à des chocs externes extrêmement brutaux, comme actuellement la baisse brutale des matières premières. Et aujourd'hui, le fait que les pays de la zone franc ne puissent pas toucher ou ne veuillent pas toucher à cette parité, ça les handicape pour résister aux conséquences de la crise des matières premières. Donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'un mécanisme soit mis en place et qu'il soit géré quand même par les Africains, pour les Africains, en fonction de leurs besoins. De toute façon, ces décisions-là ne doivent plus être prises par le Trésor français, ça doit être pris par les responsables africains. On voit, en écoutant le président Déby, qu'il y en a un certain nombre qui sont bien conscients du problème.
Étienne Giros, justement, faire évoluer ce mécanisme de la parité France-CFA, euro, c'est la piste privilégiée ou il y en a d'autres pour vous ?
Non, je pense qu'on y viendra. Et effectivement, que les pays africains soient maîtres de leur monnaie, sur le principe en tout cas, ça n'a absolument rien de choquant. Je précise quand même que ça n'est pas le Trésor qui décide seul de la parité. Il y a quand même un groupe des gouverneurs des banques et qui s'est réuni la semaine dernière à Paris, où il y avait une dizaine de ministres des Finances, et il n'y avait qu'un seul ministre des Finances français, Michel Sapin
en l'occurrence.
Mais c'est quand même un travail collectif. Non, ce que je pense très important, Serge a employé un mot qui est très parlant, qui est, il ne faut pas que les monnaies fassent du yo-yo. Ça, ça évite les transformations, les modifications de l'économie, les progrès de l'économie, de jouer uniquement la politique monétaire, c'est un petit peu facile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'ajuster, mais ouvrir la porte à 12 ou 14 monnaies qui devraient être indépendantes et qui feraient du yo-yo, ça, franchement, je le recommanderais pas. En revanche, faire une ou deux monnaies par zone, ça préserverait un autre avantage du franc CFA, c'est que c'est en faveur de la régionalisation. Vous savez que l'Afrique est confrontée à un vrai problème, c'est que les pays de l'intérieur ont des difficultés à trouver de l'activité et à exporter, parce qu'il y a des problèmes de transport, etc. Et donc, comme les marchés sont petits en Afrique, il est très très important de les agrandir par de la régionalisation. Et faire des marchés communs régionaux, c'est très important. Et quand même, quelle chance d'avoir la même monnaie unique. Nous, on a mis en Europe des décennies à le faire. L'Afrique là, et je pense que ce serait une régression si on remplaçait une monnaie unique, au moins régionale, par 6 ou 7 monnaies différentes.
Vous évoquiez à l'instant cette réunion qui a eu lieu au début du mois à Bercy, réunion des ministres des Finances de la zone franc CFA, justement. On a entendu en début d'émission Idriss Déby, qui appelle justement à une évolution de ces mécanismes. Est-ce qu'il y a une volonté commune de la part des 14 pays qui utilisent justement le franc CFA de faire évoluer ces choses-là ? Je vous pose la question en ayant une petite idée de la réponse, dans la mesure où cette question, justement, elle a été tranchée assez rapidement à Paris en début de mois.
Il n'y a pas de volonté commune parce que les intérêts des différents pays sont différents. Si vous voulez, on a dévalué en 94. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire a été étranglée par l'effondrement des prix du cacao, etc. Aujourd'hui, les cours du cacao sont excellents. La Côte d'Ivoire n'a aucune envie qu'on touche à la parité. Par contre, des pays au Sahel qui souffrent de certaines importations céréalières, etc., et qui auraient intérêt à relancer leur activité agricole, auraient intérêt à toucher à la monnaie. Donc, si vous voulez, c'est toujours inquiétant ce problème de jouer sur les parités, parce que les intérêts sont automatiquement divergents.
Alors. Ils ne sont pas divergents uniquement entre les pays. Ils sont divergents aussi entre les opérateurs.
Entre les opérateurs.
Nous, au CIAN, on représente des importateurs qui n'ont surtout pas envie qu'on touche à la parité et des exportateurs qui aimeraient bien qu'il y ait des fortes dévaluations. Donc c'est un sujet complexe, je l'admets, et je crois que tous les points de vue sont bons à entendre.
Sujet complexe, ça sera le mot de la fin, justement, de ce débat. Merci, Étienne Giros. Je rappelle que vous êtes président délégué du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, qui regroupe donc l'essentiel des entreprises françaises investies en Afrique. Merci également à Serge Mikhailov, auteur donc d'Africanistan aux éditions Fayard et chercheur associé à l'IRIS. Merci également à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Fabrice Viollet à la réalisation, Florence Ponce pour son aide dans la préparation de ce débat, le débat du jour qui revient lundi avec Anne Souhaitemont. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité internationale.